France Musique.
Mr. Louis Armstrong.
Now, good evening, ladies and gentlemen. Listen at this.
Un été avec Armstrong. Épisode 6, Ibijilis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Reprenons donc l'histoire là où nous l'avions laissée hier. Louis a quitté New York début novembre 25, après presque une année passée dans le grand orchestre de Fletcher Anderson. Il retourne à Chicago, où son épouse, la pianiste Lil Hardin, joue au Dancing Dreamland. Le jeune trompettiste revient en roi de Chicago. D'ailleurs, le Dreamland, dans sa pub, n'hésite pas à le qualifier de plus grand trompettiste du monde. Dans l'orchestre régulier du Dreamland, il y a Johnny Dodds, Kid Ory, Johnny St-Cyr. Des noms qui vont revenir très vite, vous verrez. À Chicago, Armstrong va encore accompagner des chanteuses, comme il a appris à le faire à New York. Là, elle se nomme Sippy Wallace, Bertha Shippy Hill, ou encore celle-ci, Ociel Thomas.
Mama's got something that made you say, I know you love me, Daddy, it's understood. Daddy, you know your mama means you good. I've got something that sure will bring 'em back. My daddy loves the ground where I have made track. Now I've got a feeling that I won't be mean. I can do my stuff and I'm going to do it clean. I've stopped my man 'cause he was sure running wild. I ain't no one, I mean nobody except I am. I got righteous and trust my son. I showed my daddy how I trust my son. Something about daddy makes me so want to play. I can play a game any day. You can get rough, but I will show stand. I can tell the world right now that you are my man. Oh, I've really stopped my good man. I mean, I've stopped my good man.
Dans ce disque, il y a l'embryon de ce qui sera les Hot Five, déjà le clarinettiste Johnny Dodds et le banjoiste Johnny St-Cyr. Mais celui qui tient le piano, c'est Ersal Thomas, l'oncle de la chanteuse, un musicien précurseur du boogie qui a très peu enregistré et qui est décédé brutalement à 19-20 ans seulement d'un empoisonnement alimentaire et qui, parce qu'il est complètement oublié, mérite qu'on s'arrête un peu sur lui, ne serait-ce que 4 minutes, avec ce rouleau pour piano mécanique qu'il a perforé lui-même.
Thank you.
Les disques d'Armstrong sont enregistrés sur la marque OK. Elle a enfin installé des studios permanents à Chicago, mais elle utilise un procédé d'enregistrement bizarre baptisé True Tone, un procédé qui mélange enregistrement électrique et acoustique, car OK ne veut pas payer pour utiliser le brevet Western Electric, donc 100% électrique, qui a pourtant révolutionné la prise de son en studio. Le 12 novembre 1925, cinq musiciens du Dreamland se trouvent donc dans les studios OK, prêts à enregistrer les premiers disques d'une série historique. Ils seront édités sous le nom Louis Armstrong and His Hot Five. Et pour la première fois, eh bien Armstrong a son nom sur l'étiquette. Pour cette première séance, il présente malicieusement les musiciens dans ce titre Gut Bucket Blues.
You know you can do it. Everybody from New Orleans can really do that thing.
Hey, hey.
Vous avez entendu? Puisque maintenant c'est lui le patron, Louis n'hésite plus à exhiber sa voix sur ses disques et il ne va plus jamais s'arrêter jusqu'à sa mort. Ce que d'ailleurs son précédent chef, Fletcher Anderson, lui interdisait de faire. Cette première fournée de disques Hot 5 est livrée au public au début de l'année 1926. Et dans la foulée, en février 1926, donc, le groupe retourne en studio pour une nouvelle session. Ils vont graver là des chevaux de bataille du jazz comme Cornet Chop Suey, Muskrat Rumble et ce titre-là. Voilà, Ibijibis, dans lequel, encore une fois, Louis ne se prive mais alors pas de chanter, voire même d'innover au niveau du chant. Et ce titre permet aussi d'apprécier la voix, un peu stridente quand même, de Madame Armstrong.
Thank you.
heebie-jeebies talking about that there's a heebie-jeebies you see, corset boy. Case it with a little bit of joy. Say, don't you know it? You dumb, dumb, don't be blue. Someone will teach you, come on, and do that dance. They call the heebie-jeebies dance. Yes, ma'am, Papa's got the heebie-jeebies dance. Hey, he's got to keep burning. Come on down, do that dance. They call it heebie-jeebies dance. Sweet mama, papa got to do the heebie-jeebies dance.
Bien qu'au début, la plupart de ces disques aient été enregistrés à Chicago, puis à New York, c'est de la musique qui vient d'ici. Les premières sessions de King Oliver, le Hot Five, le Hot Seven, tout ça, c'est de la musique néo-orléanaise. Ça parle de la Nouvelle-Orléans, c'est écrit par des gens de la Nouvelle-Orléans, et les orchestres, comme ceux qu'on vient d'évoquer, à leur apogée, eh bien, ils étaient composés de mecs de la Nouvelle-Orléans, comme les frères Dodds, Honoré Dutray, Kidori, tous ces gars-là ont joué ici.
Et oui, comme chez King Oliver, chez les Hot Five, comme expliquait à l'instant David Kenyon, le conservateur du musée du jazz à la Nouvelle-Orléans, eh bien chez les Hot Five, les musiciens sont tous de Louisiane, sauf Lil Hardin, qui, comme on l'a dit précédemment, vient de Memphis. Et Louis, eh bien, les connaissait déjà tous d'avant de son passage chez King Oliver, puisque c'est quasiment le même line-up, hein, avec Johnny Dodds, avec Kidori qui a aussi un peu joué avec Oliver, avec Johnny Saint-Cyr aussi, le banjoiste, qui a un peu joué chez Oliver. Ils ont donc les mêmes bases et les mêmes références. Dans EBGB's qu'on vient d'écouter, non seulement Armstrong chante, mais il scatte. La paternité de cette technique lui a parfois été attribuée avec cette histoire de papier qui lui aurait échappé des mains pendant l'enregistrement et de l'improvisation scattée qu'il aurait réalisée après. Mais bon, tout cela, c'est des racontars de journalistes de l'époque. La technique du scat existait déjà, même si elle avait été peu enregistrée. Parmi les premiers, l'orchestre de Fletcher Anderson, avant même qu'Armstrong y mette les pieds. Ironie de l'histoire, c'est l'ancien employeur d'Armstrong, Fletcher Anderson, avec son orchestre, qui a donc enregistré un petit scat vraiment très court, vous l'avez entendu, donc avant Armstrong. Là, c'était Don Redman qui chantait avec sa petite voix si particulière. Mais, en termes de scat, il y a encore plus ancien, un document qui prouve que cette technique n'est pas née avec le jazz, en fait. Elle l'a précédé avec ce chanteur, Jane Green, et son morceau King of the Bungalows, enregistré vers 1911. Écoutez.
Well, I will be the You played almost all over the world.
Yes, ma'am. And I went back to Chicago to join the Symphony Orchestra.
Ah bon, alors après ça, vous avez rejoint, après New York, après l'orchestre symphonique.
Symphony for the silent movies.
Ah bon, avec autant du film muet,
yeah,
c'est ça?
Erskine Tate was the director. Oh, Earl Hines was the pianist.
Earl Hines, qui est là à côté de nous.
He was in the same symphony orchestra.
Il était déjà dans cet orchestre symphonique. Yeah. Where was that?
In Chicago, in 1925.
En 25, oui.
1925.
Bon, and then after?
After that, why, we went to the Sunset Cafe for the Hines and myself. We worked for Joe Glaser, who's our manager right today.
Yes, still from that time.
He's still our boss.
Un extrait d'interview d'Armstrong en 52 par Mireille. Alors, comme il est très savoureux, cet extrait, on a décidé de ne pas le doubler. Mireille devait parler un peu anglais parce qu'elle avait fait un court passage à Broadway dans les années 30, mais bon, ça remontait à cette époque-là, ça remontait à 20 ans, donc apparemment elle avait perdu quelques notions d'anglais. En plus du Dreamland et des séances de disques, donc, Armstrong a d'autres activités, comme il l'expliquait au micro de Mireille juste à l'instant, et bientôt fini le Dreamland, il est débauché par le chef d'orchestre, violoniste alcoolique Carol Dickerson, pour aller jouer, comme il l'expliquait donc, au Sunset Café, un autre établissement, et c'est là qu'il fait la connaissance de Earl Hines, son futur pianiste, et aussi de Joe Glaser. C'est le fils de la patronne du Sunset Café. Et ce Joe Glaser, c'est vraiment un drôle de personnage.
France Musique, un été avec Armstrong, Florian Royer.
Thank you.
Voilà, une qualité de son un peu abîmée par ce maudit procédé Trouton utilisé à l'époque par les disques. Ok, Joe Glazer, donc le fils de la patronne du Sunset Café, sera plus tard l'impresario d'Armstrong. Mais pour l'instant, le trompettiste est plutôt sous la coupe des disques Ok, avec qui il a signé un contrat d'exclusivité. Mais il est tellement demandé, il y a une marque concurrente qui lui fait de l'œil, la marque Vocalion, et qui réussit à l'inviter, Satchmo et ses amis, les Hot Five, dans son studio. Le groupe est rebaptisé Lil's Hot Shots, et tout ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ok n'y verra que du feu, et les Hot Five toucheront un petit cachet en plus, et tout le monde sera content. Sauf que Satchmo, tout content d'avoir désormais le droit de chanter, commet une petite erreur sur ce disque pirate. Armstrong chante dans ce disque, impossible de ne pas le reconnaître. Et dès la publication de l'enregistrement, chez la concurrence, eh bien, Louis est convoqué dans les bureaux de OK pour lui rappeler quand même ce que veut dire le mot exclusivité. Le patron lui a fait les gros yeux, mais sans plus, il ne va quand même pas punir sa poule aux œufs d'or. Deux mois plus tard, une autre firme, Columbia, essaye encore d'attirer Armstrong et les Hot Five dans ses filets. Nous appellerons le groupe les New Orleans Wanderers et ce sera notre petit secret, dit la direction de Columbia. Louis accepte et puis au dernier moment, il se ravise, il ne vient pas. Ses disques sont donc quand même enregistrés avec 4 des 5 musiciens des Hot Five et Armstrong est remplacé par le cornettiste de Jelly Roll Morton, un très bon cornettiste qui s'appelle George Mitchell et Armstrong a sûrement échappé à un autre savon. Thank you.
La musique de Nouvelle-Orléans qui est la meilleure est faite par les gens qui sont nés à la Nouvelle-Orléans. Parce que la musique, c'est pas simplement un style que l'on peut apprendre à connaître et jouer. Non, ça vient du cœur, de l'âme, de l'esprit, des désirs, des espoirs, des aspirations de la vie authentique de la Nouvelle-Orléans. La musique, c'est une représentation de cela. L'esprit des gens qui y sont d'ici. Si on ne connaît pas cette vie-là, on ne peut pas jouer cette musique avec le même feeling.
Michael White, professeur à l'université Xavier à la Nouvelle-Orléans, et justement autre néo-orléanais à Chicago qui est toujours dans le coup, même s'il a perdu ses meilleurs éléments, et bien c'est King Oliver, le mentor de Louis Armstrong, en tout cas l'ancien mentor, avec un orchestre qui est désormais concurrent d'Armstrong. Il a quand même essuyé un coup dur, Oliver, à la fin de l'année 24, quand l'établissement où il travaillait, le Lincoln Garden, a entièrement brûlé. Cela l'avait obligé à mettre quelque temps sa place de chef entre parenthèses et à se faire de nouveau engager dans une autre formation. En 26, Oliver est de nouveau dans la course et il compte quand même dans ses rangs Barney Bigard, le batteur Paul Barbarin et le pianiste Louis Russell. Si ses meilleures années sont derrière lui, il enregistre encore quelques très belles phases dans les années 20.
Thank you.
King Oliver va enregistrer jusqu'à l'aube des années 30 avant de sombrer dans la misère et c'est Louis qui paiera les funérailles de son ancien patron. Quant à l'orchestre d'Anderson, il faut lui aussi faire un petit focus dessus. Il a toujours la cote à New York. Joe Smith remplit très bien la fonction après Louis Armstrong. Il a très bien appris auprès de lui et il assure donc dans cet orchestre. Il a été renforcé aussi l'orchestre par des éléments solides comme Tommy Ladnier, le trombone Jimmy Harrison ou encore Benny Morton, un autre trombone. Tout ça, ce sont des noms du jazz hot qui caractérise ces années 1920.
France Musique, un été avec Armstrong, Florian Royer.
Cet orchestre d'Anderson en 1927, on entend bien quand même que le trompettiste Joe Smith a piqué 2-3 trucs à Armstrong. Désormais également, pour les jazzmen néo-orléanais, plus besoin de quitter leur ville natale pour avoir la possibilité d'enregistrer. Les maisons de disques, devant le succès des néo-orléanais installés à Chicago, se délocalisent une fois par an. En cette année 1927, eh bien c'est elle qui donne les meilleures faces, notamment les faces de l'orchestre Sam Morgan, qui est un orchestre de danse indéfinitivement, comme le montre la présence de cette basse à cordes qui remplace la basse avant. La formation de Sam Morgan n'a pas quitté la Nouvelle-Orléans et malheureusement n'a gravé qu'une petite poignée de disques. Quel dommage.
night with a man called Mr. Key. She had a dress message to her knee. She went to the river, she couldn't get across. She paid $5 for old gray horse. The horse wouldn't pull, she's swapping for bull. All I could hear the voice was saying, won't you love it, babe? Everybody looking, love it, babe. All voice is, won't you love it, babe? Everybody looking, can't shine, drag no more style.
Le légendaire orchestre néo-orléanais de Sam Morgan. En mai 1927, on retourne à Chicago. Les Hot Five se transforment en Hot Seven avec l'ajout de deux musiciens. Ils passent donc de 5 à 7. Pete Briggs au tuba et Baby Dodds à la batterie. La firme OK a enfin mis de l'argent sur la table pour s'équiper correctement avec un vrai système électrique, ce qui permet d'enregistrer dans de bonnes conditions la basse et les percussions. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaît un monsieur, Tommy Rockwell, qui travaille pour la firme OK. Il est plus ou moins directeur artistique, en tout cas, il supervise désormais les séances d'enregistrement d'Armstrong. Mais Rockwell, eh bien, il ne connaît rien à la musique, et parmi les 11 faces enregistrées par le Hot Seven, il va en laisser une bonne partie au placard. Elles ne seront éditées qu'une quinzaine d'années plus tard, heureusement, par le successeur de Rockwell, qui connaissait quand même un peu mieux la musique. La série des Hot Seven démarre donc avec ce petit joyau, Willie the Weeper.
Thank you.
Il n'a pas inventé le jazz, mais il a certainement, par sa manière de jouer, changé la façon dont les gens interprètent le jazz, la manière dont ils le chantent. Vous savez, après avoir écouté le Hot Five et le Hot Seven, avec cette rythmique sophistiquée, ce jeu virtuose, cette cohésion de l'orchestre, ces solos, il a inventé une toute nouvelle façon de jouer.
David Kunyan, donc, du New Orleans Jazz Museum. Dans l'orchestre, les Hot Seven, seul le tromboniste a changé. Ce n'est plus Kid Ory du Hot Five. Il est trop accaparé par son travail avec King Oliver. Ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Et oui, même si le vieux King, hein, comme on l'a dit, est un peu sur la pente descendante de sa carrière. Ory est remplacé par un dénommé John Thomas au trombone, à moins que ce ne soit Honoré Dutrait, l'ancien trombone de Oliver, justement, on n'est pas sûr. Le jazz de Chicago est une grande famille. Les séances du Hot Seven sont uniques dans l'histoire du jazz. Armstrong s'y impose vraiment comme le soliste le plus inventif de l'époque et le plus solide aussi, même si ce petit malin réutilise quand même des breaks qu'il avait déjà enregistrés en 1923. Il a bonne mémoire quand même, quand ça l'arrange. Le Hot Seven, qui enregistre vraiment des morceaux fondateurs du jazz en cette année 1927, et malheureusement, et l'histoire ne pourra rien y changer, il n'y a que 11 morceaux enregistrés par le Hot Seven, à moins qu'on en retrouve un jour, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le groupe est à géométrie variable, et peu de temps après, il revient à un format à 5 musiciens, donc il redevient Hot Five. Rockwell édite certains disques et envoie les autres archives de façon un peu aléatoire, mais bon, on a dit qu'il connaissait pas grand-chose à la musique, Tommy Rockwell. Il va devenir le manager officieux d'Armstrong via son agence artistique. Il va lui trouver des engagements ici et là. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'il laisse libre cours à l'inventivité du trompettiste. Il peut chanter, il peut scatter comme il veut. C'est aussi le morceau qui va suivre, Hotter Than That, la dernière collaboration entre Armstrong et son ami, le clarinettiste Johnny Dodds. Un arrêt soudain de la collaboration. Quant au tromboniste Kid Ory, il va lui aussi prendre le large pour ne revenir qu'une quinzaine d'années plus tard, un peu comme si le succès avait gâté la cohésion du groupe.
France Musique, un été avec Armstrong, Florian Royer.
Sur ce titre, Hotter Than That, plus chaud que ça, et c'est vrai que plus chaud que ça, c'est difficile de le faire. Sur ce titre donc, les Hot Five sont accompagnés par un invité de marque, ou c'est plutôt lui qui les accompagne, le guitariste Lonnie Johnson, qui mérite que l'on s'arrête un peu sur son cas. Après avoir gagné un concours, Johnson se retrouve à enregistrer avec les meilleurs groupes de la maison hockey, comme Ellington ou encore les Chocolate Dandies, et à chaque fois, Lonnie Johnson fait des merveilles dans les groupes où il arrive. En 1929, il a aussi gravé quelques disques en duo avec un autre guitariste, Eddie Lang, et c'est sur ce duo de guitare que nous allons d'ailleurs nous quitter. Thank you. Eddie Lang et Lonnie Johnson, un guitariste blanc, un guitariste noir réunis en 1929 dans un studio. Armstrong, lui, est désormais au pinacle de sa carrière en 1928-29 et il va y rester. Il possède à la fois la technique et la fougue de la jeunesse. Par contre, son couple avec Lille, son épouse, bat de l'aile. Et puis en 1930, il va partir pour Los Angeles, se frotter au cinéma avec pour première partenaire, eh bien, une star en papier. Tout cela, ce sera pour la semaine prochaine. Pour cet épisode, la réalisation était signée Sophie Pichon, Adelino Mello et Swad Boukorsa pour la technique, Emmanuel Lacaze, Aurore Denisot pour le site web.
À réécouter sur francemusique.fr.